Radio Kapi.
Plus de 40 accidents ayant causé plus de 30 morts et 50 blessés graves enregistrés depuis janvier sur la RN1 dans le territoire de Massimanimba au Kwilu. Selon l'administrateur du territoire, ces accidents sont dus pour la plupart au non-respect du code de la route et au mauvais état de la route. Fin de la mission parlementaire sur l'exploitation illégale des minerais à Mwenga, au sud Kivu. Après la rédaction de son rapport à l'intention du bureau de l'Assemblée nationale, la Chambre basse entendra en plénière les autorités des services attitrés. Et en rapport avec cette mission parlementaire, nous recevons comme invité le député national Mangwengu Dismas, rapporteur de la commission d'enquête. Bonjour à tous. Une quarantaine d'accidents de circulation causant plus de 30 morts et 50 blessés graves ont été enregistrés sur la route nationale numéro 1 dans le territoire de Massimanimba, province du Kwilu, depuis janvier 2021. Annonce faite hier vendredi à Radio Kapi par l'administrateur de ce territoire. Selon lui, ces accidents sont dus, entre autres, au non-respect du code de la route et aussi suite au mauvais état de la route qui se dégrade de plus en plus. Jean Bosco Mukubidi plaide pour la réhabilitation de cette route avant le retour des pluies abondantes pour éviter ainsi d'autres accidents. Irène Boma pour d'autres détails.
D'après l'administrateur du territoire de Massimanimba, depuis le début de l'année en cours jusqu'à ce jour, au moins 43 accidents de circulation sont enregistrés sur la route nationale numéro 1 entre la cité de Massimanimba, chef-lieu de son territoire, et la ville de Kikwit. Parmi ces accidents, il parle de 38 décès, de 51 blessés graves et de 20 blessés légers qui ont été enregistrés par ces services. Les causes de ces accidents sont multiples, notamment le non-respect du code de la route, l'excès de vitesse, l'ivresse des chauffeurs et autres, a indiqué Jean Bosco Mukubidi, qui pense que le mauvais état de la route nationale numéro 1 à cette partie est l'une des principales causes de ces accidents. C'est dans cette optique qu'il plaide pour la réhabilitation de cette route avant la saison des pluies, afin de réduire d'éventuels cas d'accidents mortels.
Tellement qu'il y a beaucoup de nids de poules, dès que les chauffeurs veulent faire pour dévier, il y a des fois ils tombent dans les ravins, ou bien les véhicules renversés, alors il y a toujours des cas de décès et des blessés graves. Pendant la saison de pluies, la route se dégrade de jour en jour, alors il faut qu'ils interviennent rapidement parce que c'est la nationale numéro 1 qui quitte de Kinshasa jusqu'à Tchikapa, jusqu'au niveau de Katanga.
Et enfin, l'autorité territoriale de Massimanimba en appelle aussi à la conscience des chauffeurs qui fréquentent cette route. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Ici à Kinshasa, à Mitendi, dans la commune de Mongafula, les travaux de construction d'une canalisation d'eau dans un ravin qui menace des maisons sont en cours. Dans ce coin de Kinshasa, ce ravin a déjà emporté avec lui plusieurs maisons d'habitation. Les habitants de ce secteur sont inquiets de savoir qu'aucune solution n'est jusque-là trouvée, alors que la saison de pluie est déjà de retour. Nombreux d'entre eux ont déjà abandonné leur domicile. Jocelyn Poy signe ce reportage.
Il est déjà à moins de mètres de certaines maisons. Ces ravins a déjà emporté plusieurs maisons avec lui. Malgré cela, certaines familles occupent encore leur maison à risque, car elles ne savent où aller. Témoignage.
Nous en avons parlé avec le Chinois qui construit. Nous les avons dit et ils nous ont répondu qu'ils doivent terminer avec les travaux de canalisation d'eau. Ils sauront que faire pour nous protéger. C'est pourquoi nous attendons, car ils n'ont pas encore fini.
Ils sont obligés de sortir de leur domicile pendant la pluie et même la nuit, car leurs maisons connaissent des fortes secousses.
Toutes les maisons de ce coin ont été emportées. Nous sommes obligés de sortir de nos maisons lorsqu'il pleut comme d'habitude. Nous resterons dans la rue avec nos enfants en attendant que la pluie se calme. C'est ce que nous faisons dans ces secteurs. Nos maisons connaissent de fortes secousses pendant la pluie, donc pas moyen d'y rester.
Contacté, le bourgmestre de la commune de Mongafula a dit être informé de cette situation. Il leur avait demandé d'évacuer, mais certaines familles sont encore là.
courte mais émouvante cérémonie marquant le 60e anniversaire de la mort de Dagmar Schold, hier vendredi 17 septembre, sur le pont qui porte le prestigieux nom du diplomate suédois dans la commune de Ngaliema à Kinshasa. La cérémonie a été co-présidée par le gouverneur de la ville de Kinshasa et l'ambassadeur de la Suède en RDC. Témoin de l'événement, Jean-Pierre Elali Koko, qui s'est focalisé notamment sur la symbolique de ce pont dédié à l'ancien secrétaire général de l'ONU.
Le pont d'Dagmar Schold est situé dans la commune de Ngaliema, entre les quartiers Utex Africa et l'entreprise Chanik Metal, sur un petit estuaire donnant sur le fleuve Congo. Construite en 1957 en mémoire de l'ancien secrétaire général disparu, il mesure environ 50 mètres de long et 10 mètres de largeur sur les deux allées de l'avenue Colonel Mondiba. Pour la circonstance, il a été repeint par l'autorité urbaine aux couleurs traditionnelles et chatoyantes des Nations Unies, avec un écriteau à peine visible reprenant le nom de l'illustre disparu. Ces ponts en soi représentent une double symbolique. Ils renvoient aux valeurs de paix, de courage et d'égalité entre les hommes qu'incarnait Dagmar Schold. Ensuite, ce pont est là pour rappeler à la mémoire collective les liens indélébiles entre la Suède et la RDC, mais aussi les soutiens et l'engagement continu de la communauté internationale pour un avenir prospère en République démocratique du Congo. La cérémonie a été marquée par deux allocutions de Henrik Rasbrand, ambassadeur de la Suède en RDC, et de Gentiline Gobila, gouverneur de la ville de Kinshasa. L'un et l'autre ont rappelé l'engagement de l'ancien secrétaire général de l'ONU pour la paix et la stabilité en République démocratique du Congo.
Je l'ai dit dans les titres, la délégation parlementaire en mission d'enquête sur l'exploitation minière illégale est de retour de Mwenga. Ces députés vont maintenant s'atteler à la rédaction de leur rapport adressé au bureau de l'Assemblée nationale. La chambre basse du Parlement devra ensuite programmer une plénière au cours de laquelle seront entendus les responsables des services publics attitrés. Maître Mangwengbu Dismas, député national élu de Bumba et rapporteur de la commission d'enquête parlementaire à Mwenga, explique au micro de Cynthia Bachizi.
Je peux vous dire que nous sommes bien arrivés, bien acquis, et nous avons effectué notre descente après avoir entendu préalablement toutes les entreprises concernées. Et nous nous sommes transportés sur le terrain pour non seulement voir, vérifier les informations qui nous ont été données ici. Cela voudrait dire que la mission a obtenu des éléments qu'il lui faut pour réaliser son rapport et même avec des recommandations pour que la République et sa population en bénéficient enfin. Nous allons descendre à Kinshasa, enfin, si ceux qui ont détruit l'environnement ou qui se sont rendus coupables de certaines infractions, ils doivent répondre devant les juridictions congolaises conformément à la procédure en la matière. Je crois que même au niveau local, les mesures sont prises pour qu'ils ne prennent pas fuite.
Le député Dismas Mangwengu est notre invité à suivre sous peu. 67% de la population congolaise demande la réduction de la taxe RAM, 12% exigent sa suppression et 21% se sont abstenus. C'est la conclusion d'une série de consultations populaires menées par le programme multisectoriel de vulgarisation et sensibilisation sur la taxe RAM. Cette conclusion est contenue dans un rapport des résultats contenant les positions des Congolais consultés dans 23 provinces de la RDC. Rapport présenté hier, vendredi à Kinshasa, lors d'une conférence de presse marquant la fin de ces consultations populaires. C'est ce qui pousse le PMVS à demander une réduction de 70% de la tarification RAM. D'autres détails avec vous, Jocelyn Poy.
Ces consultations se sont déroulées pendant 10 jours dans 23 provinces de la RDC. Après avoir écouté la population congolaise, les PMVS demandent la réduction des 75% de la tarification de ces taxes, quand bien même qu'ils apprécient l'initiative RAM. Ludovic Kalingai, coordonnateur national du PMVS.
Que le travail que nous avons fait sur terrain relève d'abord qu'une étude n'a pas été faite sur le revenu de la population congolaise. Donc le projet numérique est le projet RAM, qui est un très bon projet, mais qui doit être adapté selon le contexte social de la population congolaise. Voilà pourquoi, parmi nos propositions, nous avons proposé une réduction de 75% des revenus réels déjà que RAM est en train de générer. Donc, ce qui signifie que par mois, comme c'est 1,17 par mois, une réduction de 75% de cette rémunération serait importante pour que nous puissions conduire les deux parties, donc les gouvernants et les gouvernés, et aussi impliquer la population dans ce processus de développement numérique et accompagner la vision du chef de l'État.
Notez que ces consultations populaires ont été lancées le 6 septembre dernier lors d'un point de presse organisé dans la commune de Lemba.
Au sud Kivu, à la limite avec le Maniema voisin, deux personnes dont un enfant de 4 ans et un sous-officier des FRDC sont mortes, tuées dans des échanges de tirs jeudi près du village de Lukolo. C'est à environ 32 km au sud de Lulimba, à l'extrême sud du territoire de Fizi. Des combattants présumés Maïmaï à Panapale, sous le commandement de Mundusi, venant de la région de Kasongo-Mukuli, ont attaqué des soldats FRDC du 21 024e bataillon positionné près du village de Lukolo dans le groupement Banyabemba, territoire de Kabambare. Fissongoma nous en parle.
Ces affrontements ont commencé tôt vers 5 heures du matin. En dehors du garçon de 4 ans et d'un lieutenant de FRDC tué dans les combats, une femme et un autre soldat de FRDC ont été blessés par balles et évacués vers le centre médical de Lukolo pour être soignés. D'autres sources locales signalent que ces tirs intenses ont été signalés à l'endroit appelé Crispin, près de la jonction entre les territoires de Fizi et le Maniema. Les sources de la sécurité affirment qu'après échange des coups de feu, les FRDC ont réussi à anéantir les assaillants qui ont disparu dans les buissons de Kalonda 2. Cette attaque survient dans un fond de réseau urgence des conflits qui opposent depuis plusieurs décennies les membres de la tribu Babuyu qui partagent les limites entre les deux provinces voisines et les Babembe du secteur de Lulenge. Dans une lettre adressée aux autorités provinciales du Sud Kivu, avec copie réservée aux chefs locaux à Penemende, Kabeya et Kilembwe, les Babuyu du Mwami Tulungu dénoncent ce qu'ils qualifient d'incitation à la guerre tribale à Kilembwe autour du dossier de la chefferie Babuyu Bashikashingo. Ils contestent la provocation des Babembe et en appellent aux autorités provinciales du Sud Kivu de faciliter la mise en application des compromis de Kinshasa pour départager les deux tribus antagonistes. D'Ouvira Fiston Momayaba, la radio Okapi.
Au Nord Kivu, les personnes tuées par des présumés ADF dans la nuit de mercredi à jeudi dans la chefferie de Bachou ont été inhumées hier vendredi. D'après Mississa Moussaba, secrétaire administratif de cette entité coutumière, le gardien de coutume, lui, a été inhumé la veille au regard de l'état de son corps. Il affirme cependant que plusieurs villages continuent à s'évider de leurs habitants, craignant des éventuelles attaques. Florida Kahambu pour les détails.
Des sources concordantes sur place rapportent que même les opérateurs économiques de la région ont commencé à délocaliser leurs boutiques vers la ville de Butembo, qui partage la limite avec la chefferie de Bachou, ce que confirme Mississa Moussabaye, secrétaire administratif de Bachou. Cela s'observe depuis la dernière attaque au pied de la colline de Mutendero, ayant fait au moins 8 morts au siège coutumier de Bachou. Certaines sources, dont la société civile locale, attribuent cette attaque aux présumés rebelles de l'ADEF. Cependant, d'autres sources parlent d'un groupe d'hommes armés dont l'action serait liée à un conflit coutumier devenu violent depuis la mort des chefs et dont l'inhumation à la colline de Mutendero il y a quelques jours avait provoqué des altercations entre les membres de la famille régnante. Cette thèse est partagée par les porte-parole des opérations Chocola 1, le capitaine Anthony Mwalushai, qui revient de la zone. Butembo, Florida Kahambu, Radio Kapi.
En politique, le regroupement Nouvelle Génération pour l'émergence du Congo, NOGEC, veut obtenir le vœu de voir le consensus s'installer dans la désignation de nouveaux animateurs de la Commission électorale nationale indépendante CENI. C'est au cours d'un point de presse tenu hier vendredi à Kinshasa que Constant Mutamba projette de faire pression à l'Assemblée nationale qui a inscrit dans son calendrier la désignation de membres de la CENI. On écoute Constant Mutamba au micro de Richard Junior Kamunga.
Nous devons continuer à amplifier la pression jusqu'à ce que nous obtiendrons le consensus autour des réformes électorales. Et j'invite toute l'opposition congolaise à faire cela. J'invite le peuple congolais dans son ensemble à se mobiliser comme un seul homme. Parce que l'heure est grave. Seule la pression va faire reculer l'Union sacrée dans son plan de conquête électorale. Et il est hors de question pour le peuple congolais, pour Nogel, de l'y accompagner. On ne pourra jamais reculer l'UDF. Ainsi, le seul langage que l'UDF et ses amis peuvent entendre, c'est la pression populaire, c'est la mobilisation de la population. Et c'est pourquoi j'invite toute l'opposition dans son ensemble à ne pas considérer la marche du 6 octobre 2021 comme marche de nos gestes. Ça doit être la marche de l'opposition congolaise. J'invite la MUCA, les camarades du SC, de la société civile dans son ensemble, toutes les forces politiques nécessaires à dire, tous ceux qui veulent que les choses changent à pouvoir se mobiliser pour le 2021.
Actualité internationale.
Au Mali, la transition adopte deux lois d'amnistie pour les putschistes. Les textes concernent le coup d'État d'août 2020 contre le président de l'époque, Ibrahim Boubacar Keïta, et le coup de force de mai 2021 contre le président de la transition, Ba Ndaw. Concrètement, cela signifie que les putschistes de la junte, en premier lieu Assimi Goïta, ne peuvent plus être poursuivis par la justice pour leurs actions contre les autorités en place à ces deux périodes. La ministre néerlandaise de la Défense a annoncé hier vendredi sa démission après la gestion chaotique de l'évacuation d'Afghanistan, emboîtant le pas à la chef de la diplomatie de son pays. « J'ai informé mon parti et le Premier ministre que j'allais demander au roi d'accepter ma démission », a-t-elle déclaré au lendemain d'une motion des députés critiquant le gouvernement pour avoir échoué à évacuer certains Afghans et pour n'avoir pas anticipé les signes de la prise du pouvoir rapide par les talibans.
L'invité.
Comme annoncé, notre invité est le député national Mangwengu Dismas. Il est le rapporteur de la commission d'enquête parlementaire sur l'exploitation minière illégale au Sud Kivu, précisément dans le territoire de Mwenga. Cette délégation composée de 8 députés nationaux a clôturé sa mission à Mwenga depuis hier vendredi. Les élus vont maintenant commencer la rédaction de leur rapport qui sera adressé en primeur au bureau de l'Assemblée nationale. Maître Mangwengu Dismas fait le point de cette mission dans cet entretien avec Cynthia Bachizi Nabizana.
Maître Mangwengu Dismas, bonjour.
Bonjour, madame la journaliste.
Vous voilà de retour de Mwenga. Quelle est la situation sur place? Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que vous avez pu constater sur terrain?
Merci pour l'opportunité que vous nous offrez. Je peux vous dire que nous sommes bien arrivés, bien acquis. Et nous avons effectué notre descente après avoir entendu préalablement toutes les entreprises concernées. Et nous nous sommes transportés sur le terrain pour non seulement voir, vérifier les informations qui nous ont été donné ici. Et nous pouvons vous dire que nous sommes satisfaits de la descente que nous avons effectuée.
Ça veut dire quoi, concrètement?
Concrètement, cela voudrait dire que la mission a obtenu des éléments qu'il lui faut pour réaliser son rapport dignement et valablement adressé au bureau. Et même avec des recommandations que la plénière pourrait probablement envoyer au gouvernement pour que la situation de Mwenga soit prise en compte sans plus tarder.
Et ces informations que vous avez pu recueillir sur place à Mwenga confirment les accusations d'exploitation minière illégale par certaines entreprises détenues par des étrangers?
Madame la journaliste, je vous dis tout simplement que la mission est satisfaite. Nous avons des éléments convaincants, nous avons des éléments qu'il lui faut pour établir un rapport digne de ce nom pour permettre à la République de prendre possession, n'est-ce pas, de la situation des Mwenga pour que la République et sa population en bénéficient enfin.
Est-ce que vous avez pu travailler dans de bonnes conditions? Est-ce qu'il n'y a pas eu de tentative d'obstruction à votre mission d'enquête?
Non, toutes les dispositions ont été prises, à commencer par les autorités locales, provinciales, et aussi les autorités judiciaires dans le sud de Kivu qui nous ont prêté main forte. En tout cas, la mission s'est passée dans une sérénité, je dirais presque parfaite.
La population locale à Mwenga reproche à beaucoup de sociétés le non-respect des cahiers des charges. Comment cette population a accueilli votre mission à Mwenga? Comment est-ce que vous avez été accueilli par la population locale qui se plaint depuis 2 semaines?
Au départ, cette population croyait que la mission s'arrêterait tout simplement à Bukavu et regagnerait Kinshasa. On commençait déjà à nous prêter des intentions. Mais le fait d'être sur le terrain, en tout cas, ça a ravivé et raffermi l'espoir de la population de Mwenga à la reprise normale de l'exploitation des minerais sur les territoires, enfin, pour qu'il en soit bénéficiaire.
Récemment, le gouvernement chinois, par l'entremise du directeur Afrique des affaires étrangères chinoises, a déclaré que les sociétés accusées d'exploitation minière illégale devraient quitter illico presto le sud Kivu. Comment est-ce que vous pouvez réagir à cela?
Moi, je crois que la mesure du gouvernement chinois est une mesure justifiée. Parce que dans ces conditions-là ou dans ce cas-là, les gouvernements chinois compatit alors au manque à gagner que les trésors publics congolais a subi.
Mais comment est-ce que les accusés pourraient répondre de leurs actes s'ils doivent quitter rapidement la province?
Bon, ça dit dans un premier temps, je crois que le gouverneur de province avait suspendu leurs activités. Avec les éléments que nous avons en main, nous allons descendre à Kinshasa. Enfin, si ceux qui ont détruit l'environnement ou qui se sont rendus coupables de certaines infractions, ils doivent répondre devant les juridictions congolaises conformément à la procédure en la matière. Ce n'est pas que le gouvernement chinois a dit et qu'ils doivent quitter. Je crois que même au niveau local, les mesures sont prises pour qu'ils ne prennent pas fuite. Parce que le gouvernement chinois peut-être venir au secours de ses compatriotes par des mesures pareilles, disons regagner, pour que nous ne puissions plus avoir l'occasion, non. Que nous puissions d'abord terminer, on dépose le rapport, que le rapport soit examiné par la plénière, parce que même des mesures appropriées seront certainement prises par le gouvernement congolais.
Je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie, madame.
Ainsi s'achève ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.